Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Les émotions à l'époque moderne, 16e, 18e.
L'état où je suis est sans relation avec votre beauté. À mesure que je vous connaissais mieux, j'ai bien vu que la beauté est la moindre de vos qualités. Voilà ce qui m'attirait. Et je ne saisissais pas ce qui se passait en moi.
La rougeur qui vient d'un coup au visage, le saisissement brusque qui vous prend au collet jusqu'à vous faire perdre la voix. Toutes les époques n'ont pas accordé la même importance à ces phénomènes soudains. C'est un trait du XVIIIe siècle que de les mettre en valeur. Il est vrai qu'il dispose, pour les expliquer, de nouvelles connaissances relatives au fluide nerveux qui peut répandre dans le corps une manière d'électricité. Au XVIIe siècle, on ne voyait pas les émotions ainsi. On ne croyait qu'aux humeurs qui encombrent. Et c'était dans les territoires de la conscience que se produisaient des obstructions et des agitations. On parlait des émotions de l'âme. Comme quoi, la fière maxime classique, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, ne se vérifie pas toujours. Entre le dit et l'éprouvé, il y a un écart que chaque époque tente de réduire à sa façon avec ses connaissances médicales et son vocabulaire propre. D'ailleurs, le mot « émotion » que nous avons tendance à utiliser aujourd'hui avec indifférence, ne provoquait-il pas lui-même un certain trouble à l'époque moderne ? Souvenons-nous qu'au XVIIe siècle, il était encore tout neuf.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Toujours la même silhouette d'homme neuf. Je dis à chaque fois que je vous reçois qu'avant l'agrégation de philosophie, vous avez été professeur de sport. C'est un rite, pardonnez-moi.
Et puis mais les rites sont très bien, il n'y a rien à dire.
Vous aimez travailler en bande, j'allais dire en équipe.
Ah oui, en groupe, vraiment.
En meute.
Oui, absolument.
Et là, vous êtes mis à 10 ou 15 avec Courtine, Corbin, qu'on entendait dans le générique de l'émission, pour tenter, après l'histoire du corps, après l'histoire de la virilité, une histoire des émotions.
Alors, nous avons tenté une histoire d'émission, c'est effectivement, vous avez raison, c'est un grand travail collectif. C'est une immense entreprise où plus de 30 personnes ont collaboré. Nous avons évidemment réfléchi auparavant à la thématique et puis ensuite, nous avons essayé d'avancer cette thématique sur des terrains relativement variés, la musique, le théâtre, les émotions quotidiennes. Et pourquoi nous avons tenté cette histoire ? D'abord parce que jamais comme aujourd'hui, nous avons le sentiment que l'affect est présent dans nos comportements. Jamais comme aujourd'hui, nous avons pris en compte l'affect, le nôtre, mais aussi celui de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes retournés vers le passé, en nous disant, mais comment les choses se produisaient auparavant, vous voyez ? Et effectivement, ce que nous avons constaté, c'est que spontanément, nous avons tendance à penser que l'émotion n'a jamais changé, que la colère a toujours existé, que la douceur aussi, dans une certaine mesure, le deuil avec les émotions qu'il provoque a toujours existé. Et puis quand nous observons avec attention la façon dont s'exprime précisément ce qui est éprouvé, ce qui est ressenti, pour reprendre le mot que vous utilisiez, on se rend compte que c'est très variable avec le temps.
D'où deux volumes aux éditions du Seuil qui sont toujours fidèles au collectif dont vous êtes l'un des animateurs. Si le mot est nouveau au XVIIe siècle, le mot émotion, c'est qu'il apparaît, je vois ça dans le dictionnaire historique Robert, en 1534.
Oui, il apparaît au XVIe siècle. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'auparavant il n'y avait pas d'émotion.
Comment
il y avait d'autres mots. Ouais. D'autres mots, on appelait affectus, affectio, passio. D'ailleurs, on confondait, mais Descartes encore, on confondait la notion de passion et la notion d'émotion, ce qui aujourd'hui est quand même renvoie à deux notions très différentes. Donc, ne disons surtout pas qu'il n'y avait pas d'émotion auparavant. Je dirais même que, dans une certaine mesure, les émotions pouvaient être d'une effervescence extraordinaire. N'oublions jamais l'attitude d'Achille à la mort de Patrocle, qui s'arrache les cheveux, qui se tourne dans la poussière, etc. Donc, l'émotion a toujours existé. Mais ce qui est vraiment important, et je dirais passionnant à mes yeux, c'est de montrer que ces transformations, elles sont à la fois très importantes et elles renvoient à quelque chose qui est de l'ordre de la construction de notre espace intérieur et psychologique. Par exemple, autant l'émotion d'Achille est totalement effervescente, autant le XVIe siècle, par exemple, invente des émotions plus retenues, plus contenues. Autant, par exemple, dans le monde de la cour, On interdit, évidemment, l'émotion trop visible. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur le caché, on travaille sur la subtilité. Donc vous voyez, déjà, à travers ces deux exemples, on voit émerger quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire.
L'émotion, elle est différente selon les milieux. On aura l'occasion de revenir sur le contrôle de soi des courtisans. Vous citiez Descartes, je pense, donc je suis. Il y a d'un côté la conscience que les prêtres et les marchands recommandent parce qu'elle permet l'évaluation. Et puis de l'autre côté, il y a les sens qui sont des sentinelles,
oui.
Des antennes.
Oui, on pourrait même d'ailleurs
tourner vers l'extérieur.
Oui, absolument. On pourrait même évoquer cette question sur le monde spatial. Vous voyez, par exemple, dans les espaces de la Renaissance, les intellectuels se retirent dans leur studiolo, dans leur petit bureau qui se trouve au centre, en quelque sorte, de la, je sais pas, de l'hôtel, du château. Et puis, ce sont les fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur. C'est lui qui regarde le ciel, etc. Eh bien, dans ces époques du 16e, 17e, il me semble que la représentation de la personne est parfaitement parallèle à ceux dont je viens de parler. C'est-à-dire que vous avez l'âme, qui est au cœur, en quelque sorte, de la personne. Et cette âme, elle s'ouvre vers l'extérieur parce que les sens constituent des ouvertures. Mais la question très importante devient la suivante. Mais quand j'éprouve quelque chose de l'intérieur, c'est quoi ? Alors, eux répondent en disant, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent vers le corps. Évidemment, cette notion va beaucoup changer avec le temps. C'est sans doute une des notions les plus passionnantes, me semble-t-il, lorsqu'on s'interroge sur la construction de la personne.
Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du territoire, du poil de Descartes, du studiolo que vous évoquez ? Tenez, ça c'est un extrait adapté par Jean Kerchebron avec Paul Prébois soi-même d'une pièce du début du XVIIe siècle de Lope de Vega. Vous allez entendre parmi les premiers mots prononcés le mot humeur sur lequel on reviendra.
Laissez-moi m'expliquer. Si les éléments sont en discorde perpétuel et si ce sont eux qui alimentent notre corps, eh bien c'est clair. La colère, la mélancolie, les humeurs, tout en vient.
Le monde est un immense accord.
J'ai toujours admis que chacun a un amour qui correspond à son humeur et régit son destin. Ma main protège ma figure du coup qui la menace. Mon pied, en fuyant, aidera mon corps à échapper au danger. Mes paupières, unies par l'amour naturel, se fermeront si quelque mal risque d'atteindre mes yeux.
Eh bien, où est notre erreur ?
Eh bien, j'entends qu'il n'est pas d'autre amour que celui que nous portons à notre propre personne.
Alors retenons la question, qu'est-ce qui se passe quand mon pied, en fuyant, évite le danger ? C'est pas nécessairement une explication par l'humeur qui va suffire là. Mais chacun a un amour qui correspond à son humeur. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot humeur ? Qu'est-ce que ça désigne, quoi ? C'est liquides qui circulent ?
Oui, c'est un mot très important qui traverse dans une grande mesure l'histoire de l'Occident. Que l'on voit déjà en Grèce par exemple, vous voyez. C'est quoi ? C'est l'idée que le corps a comme élément le plus important, des liquides. Alors pourquoi ? Parce que quand vous êtes ému, on voit le rouge qui vient au visage. Parce que lorsque vous vous blessez, on voit de l'humeur qui sort. Lorsque vous êtes malade, au contraire, soit la fièvre fait sortir les humeurs et vous rougit, soit au contraire, la maladie fait retirer les humeurs, vous maigrissez, vous devenez pâle, gris, etc. Donc pour ces acteurs des époques anciennes, c'était l'eau qui commandait le corps. Vous voyez, contrairement à ce que nous, évidemment nous considérons. Alors l'émotion, c'est quoi ? Eh bien, c'est un moment où les humeurs sont complètement en effervescence, sont en explosion, et il y a des caractères chez lesquels les émotions sont plus marquantes que d'autres.
Vous parlez d'humeur en explosion, il y a des humeurs terreuses aussi.
Alors, bien entendu, il y a des humeurs terreuses. Ce sont les mélancoliques. Et nous en prenons, il y a un texte magnifique diversant dans le livre du premier volume sur la mélancolie au XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la mélancolie? C'est le fait que l'on est pris par des humeurs qui ressemblent à celles de la terre et qui sont dures et qui sont fermes et donc qui nous attristent.
Oui, mais enfin, moi je lis aussi que la mélancolie, c'est des humeurs froide,
oui,
mais que ça peut aussi être des humeurs chaudes qui s'enflamment.
Oui, mais en gros, la repère, c'est la lune, vous voyez, la lune froide.
Ah.
Alors, évidemment, ça peut, dans certains cas, avoir un effet assez, je dirais, réactif, etc. Mais globalement, le mélancolique, c'est quelqu'un qui est terne, qui est éteint, mais c'est celui qui, en se concentrant, peut aussi avoir une dimension quasiment géniale. Donc, il y a une ambiguïté sur la mélancolie.
Les humeurs, oui, bon, ça c'est un classique, ça vient de loin, dites-vous.
Oui.
Les vapeurs, parce que c'est important aussi, au XVIIe siècle, pour l'explication de l'émotion, c'est plus récent, la vapeur.
Mais tout simplement parce qu'il y a une histoire au sein des humeurs, vous voyez. et les humeurs vont être analysées de manière, de façon totalement subjective, bien entendu, c'est pas mesuré, mais elles vont être analysées de manière beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile, et donc par exemple, au XVIIe siècle, la prise en compte de ces éléments de plus en plus ténus va entraîner l'idée selon laquelle vous pouvez être saisi par les vapeurs. Les vapeurs, c'est quoi? Ben, c'est le fait que le cœur de votre corps chauffe et fait monter à ce moment-là les parties liquides vers le cerveau.
C'est des fumées, quoi.
C'est fumée. Ce sont des fumées qui atteignent le cerveau, qui l'embuent, qui le bloquent. Et à ce moment-là, on retrouve précisément ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments de tristesse, des éléments d'inquiétude, des éléments d'angoisse. Autant de mots qui n'existent pas du tout sous cette forme au XVIIe siècle, mais qui néanmoins font exister, au fond, une sorte de milieu de troubles, vous voyez, d'inquiétude. Alors, ces troubles sont extraordinairement variés. Par exemple, Louis XIV se baigne. L'eau chaude agit sur son corps, des humeurs viennent sur sa tête, il a des vertiges. Attention, le bain est inquiétant. Donc, en revanche, Madame de Montespan, en même époque, eh bien, elle a mal digéré, elle n'est pas très très bien, etc. Et des humeurs qui montent vers le cerveau, tristesse.
Qu'est-ce qui fait se plaindre ou s'enflammer, Mère Jeanne des Anges? Nous sommes maintenant dans le début des années 1630. C'est très courant au début du XVIIe siècle, les phénomènes d'excitation dans les couvents, Louviers, Aix, Aussonne un peu plus tard. Là, nous sommes chez les Ursulines de Loudun, Loudun où officie un prêtre qui a beaucoup de charisme et qui s'appelle Urbain Grandier. Et voilà le couvent en effervescence. C'est un extrait d'un téléfilm de Éric Le Hung.
C'est notre mère qui se plaint.
Encore?
Et de quoi se plaint-elle, sinon de ne plus voir, de ne plus entendre? Car c'est une aveugle et une sourde que l'on nous a donnée pour guide.
N'y allez pas. Elle gémit sous les coups, mais elle ne supporterait pas votre présence. L'orgueil la tient.
N'y allez pas, Séraphine Archer! Vous savez que notre monastère est hanté, que notre ancien professeur, monsieur l'abbé Boursouillet, revient pour y réclamer des messes.
Grandier, Grandier.
Vous tremblez? Vous n'êtes pas bien?
Ma cellule n'est plus une cellule. Ce couvent, un couvent. Mais l'enfer.
Où est l'enfer si ce n'est en nous?
Alors il est en moi.
Expliquez-vous.
Détournez la tête, mon père. Que ma honte ne voit en vous que ce Dieu dont vous me parlez. Et non pas un homme.
C'est donc d'un homme qu'il s'agit. Les femmes ont des sensibilités si curieuses qu'elles créent parfois leurs fantasmes. Oh, vous êtes plus femme qu'aucune par tout ce que je sais de vous.
En même temps, Mère Jeanne des Anges, l'enfer est en moi, pourra dire « les intérieurs sont calmes ». Alors la possession fait que ses membres s'agitent, que le tremblement la gagne, mais les intérieurs sont en paix.
Ouais, c'est un thème passionnant au XVIIe siècle, cette question, parce qu'elle montre qu'il y a un enrichissement déjà du psychisme. Je m'explique rapidement. La Mère des Anges est possédée. Et c'est Grandier qui est considéré comme celui qui suscite la possession.
Le prêtre,
possédée,
de Loudun,
le prêtre qui sera d'ailleurs exécuté. Et elle est possédée, et donc il y a chez elle quelque chose qui l'agite malgré elle. Et en même temps, elle dit « mais mon intérieur reste calme ». Donc il y a une sorte de dédoublement qui montre l'importance progressive que l'on attribue à l'intérieur et à l'âme. Et qui fait une sorte de distinction entre le dedans et le dehors. Le dedans étant susceptible finalement d'être en distance par rapport à ce dehors. Néanmoins, vous voyez, on revient à l'émotion. L'émotion ici, c'est un phénomène de corps. Et progressivement, l'émotion, ce sera aussi un phénomène d'âme plus tard.
Et on va y venir quand on évoquera le XVIIIe siècle. Mais nous sommes à une époque charnière, au moment où notre amie Valérie Astaraï va nous faire entendre l'air du froid de Purcell dans Le Roi Arthur. Il y a dans l'histoire des émotions du seuil un grand article de Gilles Cantagrel qui cite cet air. C'est un semi-opéra qui va nous permettre de faire la transition avec le XVIIIe siècle.
Article magnifique, je me permets de le dire.
Et puis alors, l'aria est magnifique aussi, à tel point qu'il a été repris sans cesse, Mnouchkine, Klaus Nomi. Oui. Et ici, c'est la dernière version au disque avec le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet.
Ha unwillingly and slow. From beds of everlasting snow. Seest thou not how stiff, and wondrous old, far fit to ever be to go? I can scarcely move, or draw my breath. Can scarcely move, or draw my breath. Let me freeze again. Let me freeze again to death. Let me freeze again to death.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Aujourd'hui, l'histoire des émotions avec Georges Vigarello. L'article de Gilles Cantagrel consacré à l'histoire des émotions évoque longuement la musique. Le père Mersenne, le correspondant oui. de Descartes, on est encore au XVIIe, disait qu'il faut transférer la vie, l'affection, l'âme des musiciens aux oreilles et à l'âme des auditeurs, ce qui ne se fait pas toujours si aisément.
Monsieur, vous n'avez pas mal joué. Vous connaissez la position du corps. Votre jeu ne manque pas de sentiments. Votre archer bondit, votre main gauche saute comme un écureuil, elle file comme une anguille sur les cordes. Vos ornements sont ingénieux. Et parfois charmants, mais je n'ai pas entendu de musique. Avez-vous un cœur pour sentir? Avez-vous idée de ce à quoi peuvent servir les sons quand il ne s'agit plus de danser ni de réjouir les oreilles du roi? Cependant, votre voix brisée m'a ému. Je vous garde pour votre douleur. Non pour votre art.
Jean-Pierre Marielle, il attend que ce qui se passe chez l'autre puisse le toucher.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'émotion de celui qui construit le son et la recherche de toucher l'autre. Et c'est très clair dans les textes que nous avons dans ce premier volume, en particulier sur le théâtre. Il y a un superbe texte de Christian Bier montrant que la préoccupation de l'homme de théâtre, c'est évidemment de faire passer quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, mais c'est aussi de tenter d'atteindre le public. Et il a des exemples remarquables sur la façon dont le public peut être atteint et manifeste. Alors moi, il me semble que à l'instant actuel de notre propos, je trouve que on peut dire la chose suivante. Au fond, l'histoire de l'émotion, en particulier à l'époque classique, se traduit par trois types de phénomènes qui sont aussi passionnants les uns que les autres. Le premier, c'est que vous avez une atténuation, une nuance croissante de prise en compte de l'émotion, de plus en plus ténue, de plus en plus euphémisée. Deuxièmement, vous avez une émotion qui se diversifie. C'est l'homme de goût du XVIIe, par exemple, qui est de plus en plus sensible à des données différentes, aussi bien l'alimentation que le temps ou que la musique, par exemple, ou le théâtre. Et puis vous avez une intériorisation, c'est-à-dire le fait que cette émotion, elle va vous atteindre d'une façon qui n'est plus simplement celle de l'ébranlement du corps, mais qui est un ébranlement assez insaisissable d'ailleurs, pour ne pas dire abstrait, qu'est celui de l'âme ou de l'esprit. Et vous avez des textes qui disent, pour la première fois au XVIIe siècle, émotion d'âme, émotion d'esprit, ce qui crée un nouvel objet, et je dirais un nouvel univers intérieur.
Mais on va évoluer progressivement, oui. Comme vous le faites dans l'histoire des émotions vers le 18e siècle, où, dites-vous, on passe du « je pense, donc je suis », l'émotion d'âme, l'émotion d'esprit, à une émotion venue comme par un sixième sens depuis le corps. Et puisque on se posait la question de savoir si ce qui se passe chez l'autre résonne en soi, on pourrait peut-être résoudre la question de Paul Prébois dans la pièce de Lope de Vega tout à l'heure. Comment se fait-il que mon pied fuit et se protège quand je vois un coup porté à un autre?
Mais parce que dans cet enrichissement, alors est-ce que le mot enrichissement est le meilleur? Je ne sais pas, l'histoire c'est pas seulement d'enrichissement, mais contentons-nous de ce mot. Parce que dans cet enrichissement, il se passe plusieurs choses. En particulier, il se passe le fait que vous prenez davantage en compte ce qui vient de l'intérieur de vous. Vous voyez, le studio Lo était ouvert sur l'espace avec les fenêtres, et là maintenant, votre espace c'est aussi l'espace intérieur. Ça c'est un immense changement, qui est lié au fait que vous vous sentez moins dépendant du ciel, que vous vous sentez moins dépendant de forces occultes, et que les forces qui comptent, c'est celles qui viennent de vous. Et celles qui viennent de vous, elles viennent du dedans de vous. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est une grande question. La deuxième question, qui est liée un tout petit peu à ce que nous disons tout à l'heure, lorsque nous parlions des spectateurs. La deuxième question, c'est comment nous touchons les autres? Et nous nous rendons compte aussi que le mouvement de l'autre peut brusquement entraîner chez nous également un mouvement. Ça, c'est Adam Smith qui le montre magnifiquement. Il dit, lorsque un acrobate est sur son fil et qu'il perd l'équilibre, moi-même, au moment où il perd l'équilibre, je sens quelque chose qui
se
produit en moi.
C'est une réaction électrique, c'est une réaction nerveuse, parce que autant au XVIIe siècle on accordait d'importance aux humeurs, autant au XVIIIe on va en apporter au fluide nerveux.
Nouvelle question absolument passionnante à mes yeux. Ce qui se produit, évidemment, dans l'histoire, c'est aussi un changement de représentation du corps. Et ça, on a tendance à l'oublier. Quand je dis représentation du corps, je veux dire qu'au XVIIe siècle, ce sont évidemment les humeurs qui dominent, on est d'accord. Donc c'est les poches, c'est les fluxions, c'est les humeurs qui bougent, qui vont d'un lieu à l'autre, etc. Qu'est-ce qui domine au XVIIIe siècle? Eh bien, c'est la métaphore nerveuse, mais au sens électrique du terme. Ce sont les courants, ce sont des flux, vous voyez, qui cette fois passent par des données qui sont parfaitement semblables à l'électricité. D'où l'attention tout à fait nouvelle. Je sens brusquement des douleurs qui se déplacent dans mon corps, je sens comme des sortes d'étincelles électriques, etc. Vous voyez, il y a à la fois...
Des élancements.
Des
engourdissements, des fourmillements.
Un nouveau mode de représentation du corps, et par là même, évidemment, un nouveau type d'attention à des objets, et un nouveau type d'attention à l'expression de ces objets.
Vous parliez de Descartes tout à l'heure, symétrique, au temps de l'encyclopédie, Diderot, le rêve de d'Alembert.
C'est un texte qui m'a passionné. Parce que vraiment, on est
qu'est-ce
avec
qui
ce rêve de d'Alembert.
Qu'est-ce qui ne vous passionne pas, Jean-Louis
Garello? Écoutez, les phénomènes du corps me passionnent, c'est clair. Bon, bref. Mais pourquoi ça m'a passionné? Je vais essayer de vous le dire. Je crois que dans le rêve de d'Alembert, Diderot est un des premiers à donner de l'importance. Parce que jusque-là, le phénomène dont je vais parler existait. Mais l'importance, elle, ne lui était pas attribué. A donné de l'importance à quoi? Au fait que nous pouvons avoir, dans certains cas, le sentiment que notre corps est devenu complètement différent. Ça se passe dans le rêve, ça se passe dans un phénomène d'imagination, ça se passe parfois dans les phénomènes quotidiens, brusquement, nous avons quoi? Le sentiment que notre corps grandit, que notre corps se rapetisse, que notre corps, dans une certaine mesure, devient élastique. Et que dit Diderot? Mais c'est ça qui est, à mon avis, central dans le raisonnement de Diderot. Diderot dit, lorsque vous sentez votre corps devenir différent, cela joue sur votre propre identité. Et à ce moment-là, on voit bien que l'importance donnée au corps prend un statut complètement différent de ce qui était proposé jusque-là.
Et c'est le soi.
Et c'est le soi qui émerge,
qui
évidemment.
Émerge
et c'est le
l'âme.
Soi qui devient cette sorte de convergence entre ce qui était auparavant l'esprit et ce qui est maintenant le corps.
Mais au lieu de continuer à parler de l'écoute de soi qui va se développer au XIXe siècle avec le journal intime, faisons preuve un peu pour finir de contrôle de soi. Modérez vos passions. Le contrôle de soi, ça paraît...
J'espère que c'est pas moi que vous vous adressez quand il s'agit de modérer les passions.
Le contrôle de soi, ça consiste, expliquent les auteurs de l'histoire des émotions, à serrer les fesses, à ne rien lâcher de mauvais goût, ou bien à ne pas éclater de rire bruyamment, de seulement sourire. Dernier extrait, dernier archive sonore, les acteurs de Bertrand Blier, dans un panel de grands qui s'observent.
Alors les gars, comment ça va?
Bien, bien.
T'es toujours souriant, toi, hein?
Qui ça, moi?
Oui, toi, Claude Riche. T'es bien Claude Riche?
Ben... oui.
Acteur souriant?
Oui.
Ah, t'es toujours souriant?
C'est-à-dire que... oui, j'essaye, enfin, dans la mesure du possible.
C'est un sourire qui te vient naturellement ou bien c'est un sourire de façade?
J'ai toujours souri. Toi aussi, tu as souri. Je me souviens très bien de toi souriant.
Oui, ben, maintenant, je ne souris plus.
Toi non plus, d'ailleurs, tu souris plus. Là, en ce moment. Comment ça se fait que tu souris plus? Moi, je souris. Tiens, regarde, regarde comme je souris. Et je rigole même.
Un mec qui sourit tout le temps, c'est qu'il a quelque chose à cacher.
Qu'est-ce que t'as à cacher?
Réponds quand on te pose une question.
Oui, alors répondez, Georges Luc Garrido, qu'est-ce que vous avez à dire du rire et du sourire?
Ce que j'ai à dire tout simplement, c'est que les émotions, évidemment, elles sont construites, elles répondent à un univers qui est un univers culturel, dans certains cas, elles peuvent apparaître complètement spontanées, et dans d'autres cas, elles sont évidemment totalement contrôlées. Et elles commencent à être contrôlées de manière de plus en plus ferme, de plus en plus exigeante, de plus en plus diversifiée, avec la société moderne, dont la cour... et l'exemple majeur. Qu'est-ce qui se passe dans la cour? Il se passe le fait que vous devez masquer un certain nombre de choses.
Auteurs racontent que le fard est tellement épais sur les visages des courtisans de la cour de Louis XIV qu'ils ne peuvent même pas sourire parce que ça ferait des craquements.
Oui, bien entendu. Mais en même temps, ce qu'ils contrôlent... le texte de Montandon est magnifique de ce point de vue-là. Mais en même temps, ce qu'ils contrôlent sont aussi les gestes, nous l'oublions jamais, et le pas, la façon de s'asseoir, la façon de se courber, c'est, la façon de faire une révérence. C'est tout un ensemble de codes qui vient s'imposer sur le sujet pour que celui-ci rentre dans quelque chose qui est de l'ordre d'un jeu social. Mais un jeu social qui a énormément de sens. Parce que, pourquoi? Parce qu'il peut être fait de masquage, il peut être fait de stratégie, il peut être fait de leurre. Et ça, c'est fondamental parce que ça complexifie évidemment le fonctionnement social.
Mais au XVIIIe siècle, le sourire peut être réintroduit dans les tableaux de Watteau.
Mais oui, bien sûr. Mais ce qui se produit, et c'est tout à fait fondamental comme problème, c'est moi, je pense que c'est fondamental. C'est une insensible libération de l'individu et du sujet. Donc, ce qui se produit au XVIIIe siècle, en particulier sur la femme, c'est le fait qu'il y a une autorisation progressive à ouvrir le visage. Jusque-là, le visage devait être fermé. Les dents n'avaient pas à être montrées. Le rire, évidemment, était radicalement interdit. Et puis, progressivement, le texte de Colin Jones le montre magnifiquement, progressivement, le sourire émerge, le rire est accepté. Et donc, une forme de liberté est également acceptée. Liberté dans quoi? Dans l'émotion.
C'est ce texte qui ferme le premier des deux tomes de l'histoire des émotions. Au Seuil, on vous retrouvera à Blois, où vous viendrez la présenter. Oui, parce que ce sont les rendez-vous de l'histoire à Blois. L'histoire qui nous accueille. Nous parlerons de la façon dont elle est faite sur YouTube. Ce sera jeudi, en direct, devant la Halle aux Grains, à l'auditorium de l'abbé Grégoire. Valérie Estaraille, Éric Morin et toute l'équipe de la marche de l'histoire. Très vite, Mathieu Vidard, on n'est pas très loin de nos sujets, le cerveau, les nerfs.
Oui, le cerveau qui nous trompe, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui dans la tête au carré, Jean.
Donc, un petit peu après le journal.